Bonsoir à tous.
Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue donc dans Soft Power en direct de la maison de la radio jusqu'à 20h30. Et comme chaque dimanche, Soft Power, magazine de France Culture, consacré à la politique culturelle, aux industries créatives, aux médias ainsi qu'au numérique et à l'innovation. Les nouveaux critiques culturels, tel est le sujet de cette émission ce soir. Nouveaux critiques culturels entre influence, recommandation, prescription, curation. La critique littéraire, la critique cinéma ou musique sont en train de changer d'une manière radicale. Les nouveaux influenceurs sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec de nouveaux outils, de nouveaux sites et la montée en puissance des algorithmes, des hashtags, des playlists et même des enceintes connectées qui vont bientôt nous recommander de la musique. Le nouveau critique sera-t-il un algorithme ou un mélange d'humain et d'algorithmie? Voici quelques-unes des questions que nous poserons ce soir. En première partie d'émission, dans un instant, l'actualité du numérique, des médias et des industries créatives. Nous parlons ce soir de Facebook contre Trump et de Bruno Le Maire contre les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. On va également s'intéresser à la vente de la décennie, la collection d'art des Rockefeller présentée chez Christie's cette semaine, et au film Black Panther qui vient d'atteindre le chiffre astronomique de 1,2 milliard de dollars de recettes au niveau mondial. C'est le 7e film le plus gros de l'histoire aux États-Unis en dollars d'aujourd'hui en tout cas, et déjà près de 3 millions d'entrées en France. Décryptage d'un succès inattendu avec vous, Rokhaya Diallo, animatrice de BIT, Black Entertainment Television.
Tout à fait.
Le E devient le I. Oui, un mot sur ce film.
C'est un film qui est à la fois divertissant et politique, et c'est la première fois qu'on voit cette complexité de l'identité noire à travers une pluralité de personnages qui n'en font pas des personnages schématiques et caricaturaux et qui placent pour une fois des personnages noirs au centre. Donc effectivement, c'est important.
On parle de ce film avec vous, Rokhaya Diallo, présentatrice de BIT. En seconde partie d'émission, l'invité innovation ce soir avec vous, Zoé Sfez. Alors là, on dit Audible ou Audible?
Non, là, on dit Audible, même si en fait, c'est une société américaine, Audible. On sera avec Constance Cipulla, la directrice de Audible en France, Audible, qui est donc une société qui fait du livre audio et du podcast et qui connaît un succès fulgurant. On la reçoit évidemment à l'occasion du Salon du Livre et qui un peu réinvente le livre audio. On va voir justement qu'il se dépoussière et que ça marche plutôt extrêmement bien.
20h10, le numérique est politique. Le débat de ce soir sera consacré aux crypto-monnaies, à leur régulation. Et nous serons pour en débattre avec Romain Pigenel, ancien conseiller à l'Élysée de François Hollande et consultant chez Futur. Et Eliott Lepers, entrepreneur et fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. On écoutera également John Baez, Drake, Kendrick Lamar et The Weeknd au cours de cette émission. Émission réalisée ce soir par Liz Com avec en régie Dofar Guéride. Cette émission a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Pierre Ledamani. Car vous pouvez également suivre cette émission sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Spotify intitulée les Soft Power également, ainsi que sur Instagram, sur Medium, sur LinkedIn, sur Facebook, en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. L'actualité, comme chaque semaine, au début de cette émission, avec nos chroniqueurs et invités, Rokhaya Diallo, présentatrice de BIT, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, et vous, Zoé Sfez. Premier sujet, ce soir, Bruno Le Maire contre les GAFA. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a annoncé cette semaine qu'il allait assigner Google et Apple en justice pour pratiques commerciales abusives. Le gouvernement attaque notamment le fonctionnement et le mode de rémunération de leur magasin d'applications en ligne, à savoir l'App Store et Google Play. En général, le développeur reçoit 70% des revenus générés par l'achat d'une application et la plateforme empoche le reste. Bruno Le Maire critique le fait d'imposer ces tarifs aux développeurs alors que les plateformes récupèrent des données et peuvent modifier unilatéralement les contrats avec les développeurs. La direction de la concurrence, du coup, a assigné les deux géants et il appartient désormais au tribunal de commerce de juger ces pratiques. Pour leur défense, les plateformes estiment que le ministre ne comprend pas vraiment le fonctionnement de ces magasins d'applications qui seraient de simples distributeurs de services et ne vendent pas les applications. Apple et Google défendent la conformité de leurs services avec la loi française et expliquent que cela permet de diffuser et monétiser des applications pour de nombreux développeurs français. Apple précise également que les développeurs français auraient gagné 1 milliard d'euros sur l'Apple Store. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express.
Oui, alors c'est pas la première fois qu'un ministre d'un gouvernement se saisit de ce sujet. En 2013 déjà, donc c'était il y a 5 ans, c'était Fleur Pellerin qui était alors ministre du numérique, enfin en charge
de l'économie numérique,
qui s'était un peu penchée sur le sujet puisqu'une société française qui s'appelait App Gratis à l'époque avait dû fermer et licencier son personnel. Puisque l'iPhone et Apple notamment avaient décidé unilatéralement d'exclure l'application de l'App Store. La raison, c'était des changements effectivement contractuels entre les développeurs et la plateforme de développement d'Apple. Et notamment dans ces conditions, le fait qu'on puisse pas, ce qui était reproché en tout cas à App Gratis, c'était de pousser et de mettre en avant certaines applications de manière fictive et factice, en engendrant des volumes de téléchargement pour faire rentrer dans le top 10 certaines applications. Et pour cela, en contrepartie de cela, se faisait rémunérer par les développeurs de ces dites applications. Du coup, Apple a décidé de bannir App Gratis de sa plateforme. La société aujourd'hui est en faillite. Et à l'époque, Fleur Pellerin avait décidé de se pencher sur le sujet et avait demandé un rapport sur la neutralité des plateformes qui n'avait absolument rien donné. Donc on voit 5 ans plus tard que à nouveau un ministre se penche sur le sujet. Il est fort probable que ça donne pas grand chose non plus puisque ce sont des sociétés de droit américain hein, aujourd'hui. Et donc il faut requalifier en droit national certaines de ces contrats qui sont passés avec les développeurs. Donc c'est pas évident.
Mais si Bruno Le Maire le fait, c'est qu'il pense quand même pouvoir agir, non? Ou alors c'est de la communication?
Moi je pense très sincèrement que c'est plutôt de la communication. D'une part parce qu'aujourd'hui ce sont des contrats mondiaux qui sont passés entre les développeurs et les plateformes. Donc si la France arrive à les faire plier, ça va sans dire que tous les autres pays vont tenter de s'engouffrer dans la brèche.
Le néologisme était très beau.
Exactement. En plus, les tarifs imposés, c'est un peu compliqué, puisqu'en fait, pour tout dire, il y a plusieurs types. Il y a une grille de tarifs qui est fixée effectivement par les plateformes, qui peut aller de quelques euros jusqu'à 300 et quelques euros, je crois, pour une application. Donc c'est une grille qui est quand même assez large et relativement souple. Donc un développeur ne peut pas donner son prix, mais il a une fourchette de prix sur laquelle il peut se greffer. Donc c'est compliqué de dire que de ce point de vue-là, il peut y avoir un abus des plateforme. Et puis surtout sur le contrôle et la suppression des applications, il faut savoir aussi qu'il y a eu des abus. Notamment, on a vu récemment des applications qui soit vous enregistrez à votre insu pour après revendre ces données par exemple à des annonceurs télé pour qu'ils vous ciblent directement avec des bonnes publicités en lien avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez, avec vos hobbies. Donc on a vu quand même des dérives et c'est vrai que la plateforme d'Apple qui est beaucoup plus centralisée, beaucoup plus qui filtre les applications permet justement d'éviter ce genre de choses, permet aussi d'éviter que à l'intérieur des applications il puisse y avoir des logiciels malveillants qui sont intégrés. Donc il faut du contrôle. Après, est-ce que ce contrôle de temps en temps ne va pas pour les intérêts d'Apple et contre les intérêts des développeurs, ce qui peut être le cas de temps en temps, puisque des développeurs peuvent créer des applications que Apple lui-même développe de son côté, et à un moment donné interdire l'accès à ces applications-là, tout simplement parce que il y a une concurrence qui lui est faite.
Et qui est là un abus de position dominante.
Un abus de position dominante, exactement.
Alors là, on voit que du coup, le tribunal de commerce va décider, peut-être d'autres juridictions en France, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire si leurs décisions ne peuvent pas obligatoirement avoir de grandes conséquences? C'est au niveau européen que tout ça doit être réglé?
Alors il y a déjà en cours, effectivement, un texte européen qui est en cours de rédaction, justement sur les plateformes du type App Store et Google Play dont on parlait. Et effectivement, il faudra voir si c'est pas quelque chose qui se joue plutôt au niveau de l'Europe, voire même au niveau mondial avec les règles de l'OCDE, un peu comme la fiscalité en réalité, de voir si ça ne peut pas se régler au niveau de l'Europe. Ça semble quand même plutôt se dessiner à ce niveau-là qu'au niveau national.
Mais est-ce que justement il n'y a pas eu des précédents, pardon, où les tribunaux de commerce se déclarent incompétents au bout d'un moment d'ailleurs ? La plupart du temps, ils sont embarrassés par ce genre de... Ils ne savent pas tellement, justement, parce que vous le dites, c'est des compétences qui vont au-delà.
Là, moi, n'étant pas juriste, mais je pense qu'effectivement, de temps à autre, mais c'est quand même un peu comme en fiscalité, c'est-à-dire que c'est très dur.
Mais la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, elle agit déjà sur ces questions et elle essaye d'une autre manière, au niveau de la Cour européenne, au niveau du droit européen, d'obtenir des résultats.
Oui, mais c'est vrai que l'angle qu'elle a pris aujourd'hui, c'est plutôt un angle de distorsion de concurrence, c'est-à-dire des règles qui peuvent s'appliquer à Apple dans un pays ne sont pas les mêmes dans un autre pays européen. Et de ce fait-là, ça le favorise dans un pays européen par rapport à ses concurrents. Donc une distorsion de concurrence dans un pays, là c'est compliqué puisque les deux plateformes font la même chose et c'est les deux plateformes dominantes. Donc il n'y a pas de distorsion de concurrence en tant que telle, à ma connaissance. Mais après, il va falloir étudier ça de manière juridique et de manière un peu plus
approfondie. Donc on verra qui s'embrèche dans la brèche.
Dans le
gouffre.
Autre polémique autour des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon ce week-end. Deux enquêtes, l'une du Guardian et l'autre du New York Times, révèlent que des données d'utilisateurs de Facebook auraient été captées illégalement par une entreprise et utilisées pour cibler des électeurs potentiels de Donald Trump. Alors le montage est un peu complexe. Au départ, c'est un chercheur qui développe une application similaire à Facebook. Il présente à Facebook comme un outil pour une étude académique. Une société rémunère ensuite des centaines de milliers d'internautes pour l'utiliser et récupérer ainsi des données personnelles, car l'application est liée au compte Facebook des utilisateurs. Les données ont été ensuite transmises à une entreprise dénommée Cambridge Analytica, dont Stephen Bannon, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, est l'un des investisseurs. Ce serait au final 30 à 50 millions d'utilisateurs qui auraient vu leurs données aspirées. Le New York Times accuse l'entreprise d'avoir utilisé ces données pour cibler des électeurs potentiels de Donald Trump, ce que l'entreprise dément et dit avoir supprimé ces données dès qu'elle en a appris la provenance. Cela pose deux problèmes pour Facebook. D'abord, l'entreprise a été mise au courant de cette fuite de données dès 2015, mais ne s'est jamais assurée de la suppression effective des données. Ensuite, cela montre encore une fois qu'il est possible, Emmanuel Paquette, d'utiliser Facebook à des fins politiques.
Oui, on l'avait déjà vu dans les éléments d'intervention russe dans la campagne américaine. Et notamment la mise en avant des fake news sur le réseau social aux États-Unis pendant la campagne de Donald Trump. Donc il y avait déjà ce premier foyer d'incendie à éteindre pour Facebook. Là, c'est un deuxième. Et ça me fait penser à la couverture de Wired, qui est un grand magazine des nouvelles technologies, sur lequel on voit Zuckerberg avec l'œil au beurre noir, la lèvre ouverte, fendue.
Blessé,
en disant que Facebook, aujourd'hui, se prend des coups un peu partout sur la planète, notamment du monde politique, pour ne pas pouvoir et ne pas réussir à endiguer les fausses nouvelles qui circulent.
Un peu comme un docteur Follamour qui aurait créé un objet qui n'arrive plus à contrôler. Qui l'a dépassé, ouais.
Exactement. Et d'ailleurs, Facebook lui-même, qui à un moment donné disait pouvoir lutter contre les fake news, aujourd'hui, simplement, a revu sa position en disant que il pousserait moins en avant les articles et pousserait beaucoup plus, l'algorithme va être modifié pour pousser plus
les contenus personnels,
effectivement, entre les amis, plutôt que des articles de presse ou des faux articles, puisqu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux.
Oui, puis effectivement, on voit à quel point les réseaux sociaux peuvent influer à la fois par des manipulations potentielles de cet ordre-là, mais aussi par le fait que des utilisateurs en fait de réseaux sociaux peuvent être enfermés en fait dans une certaine idée de ce qui correspond à une opinion majoritaire.
Une bulle filtrée, là.
Absolument.
Filter bubble.
C'est ça, et c'est ce qu'on a pu voir lors de l'élection de Donald Trump, où effectivement il y a une partie de la population qui a pris comme une gifle cette élection-là, parce qu'elle était complètement confortée par le fait d'alimenter l'idée que ce camp-là n'était pas possible, ne pouvait pas accéder à la victoire.
On reviendra dans les semaines à venir dans Soft Power sur ces évolutions et on consacrera d'ailleurs dans quelques semaines une émission complète à Facebook, à la fois à ses algorithmes, à ses questions de vie privée, ses questions de fake news et aussi au modèle économique de Facebook. Facebook à 360 degrés sera le titre de cette émission.
Soft Power, reportage. Zoé Svez.
Avec vous, Zoé Svez, on s'est intéressé cette semaine au marché de l'art et notamment à une vente exceptionnelle qui est passée par Paris.
Oui, c'est le soft power des collectionneurs d'art, ou en tout cas des grands milliardaires, puisque depuis vendredi et jusqu'à mercredi, c'est très court, c'est 5 jours, chez Christie's, dans les locaux de Christie's, les bureaux de Christie's à Paris, sont exposés quelques-uns des chefs-d'œuvre de la collection des Rockefeller. Les Rockefeller, vous savez qui c'est, Frédéric Martel, je sais que vous avez travaillé sur leur histoire. Riche comme un Rockefeller, c'est une famille où le nom est presque devenu un nom commun, donc cinquième génération donc de famille milliardaire. Et un couple, le couple disons de la deuxième grande génération, il faut rappeler que Abby, la grand-mère des actuels Rockefeller, est la fondatrice du MoMA, et ses enfants, David, qui a ensuite épousé Peggy, ont amassé, à partir des années 40, une collection absolument intersidérale d'art, et essentiellement d'art français, impressionniste. Cette collection, qui est estimée aujourd'hui à 700 millions d'euros au bas mot, va être mise en vente en mai prochain à New York, ce sera chez Christie's, et elle est déjà passée à Hong Kong, elle est passée à Londres, elle est en ce moment à Paris, elle ira ensuite en Chine, à Pékin et à Shanghai.
Donc là juste elle passe pour qu'on la voie avant d'éventuellement l'acheter.
Mais évidemment, alors, le but c'est de convaincre les acheteurs, mais le but aussi c'est de voir ces œuvres qu'on n'avait pas vues depuis qu'elles ont été achetées. J'ai rencontré le directeur, le vice-président de Christie's US qui s'est occupé de mettre en œuvre cette vente, ainsi que celle qu'on avait aussi appelée la vente du siècle, c'était il y a quelques années, la vente Yves Saint-Laurent Berger.
Philanthropy is in Rockefeller DNA.
La philanthropie fait partie de l'ADN des Rockefeller, ça fait partie d'eux, et c'est vrai de toute la famille, pas seulement de Peggy et David. Et dans ce cas particulier, je crois que David Junior et tout le reste de la famille étaient parfaitement d'accord sur le fait que cette collection devait être vendue et que les bénéfices tirés de la vente devaient être mis au service de causes philanthropiques. Je pense que les enfants de David Rockefeller Senior vivent de manière tout à fait différente. Ils n'ont plus, disons, le train de vie que leurs parents avaient. Ils ont évolué vers une autre conception de la vie. Et ils sont bien plus intéressés par une cause comme celle de l'environnement. Je pense qu'ils se rappelleront toute leur vie d'avoir grandi avec ces objets absolument extraordinaires, mais est-ce qu'ils ont envie de vivre avec ces objets extraordinaires? Je pense que c'est plus difficile dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas pour certaines personnes.
On parle de la vente du siècle pour cette vente. Après avoir
c'est toujours la vente du siècle. C'est comme c'est Saint-Laurent, c'est la vente du siècle. C'est
du siècle jusqu'à preuve du contraire.
How do you say it in French? Decade.
De la décennie.
Oui. Exactement. I think what is extraordinary about this.
Je crois que ce qu'il y a d'extraordinaire au sens premier du terme avec cette vente, c'est la qualité absolue des objets. Chaque objet est ce qu'on a fait de meilleur dans son genre. Il y a ce Georges Seurat, cet incroyable tableau de Monet de la gare Saint-Lazare, un tableau vraiment crucial des années 1870. Et puis le tout petit Manet que Madame Rockefeller avait accroché dans son boudoir. Et le tigre de Delacroix. Et ce Gauguin absolument incroyable qui rend si bien la Bretagne dans les années 1880. Il y a tant d'objets ici qui racontent la France. Je crois que c'est très important que les Français comprennent bien que c'est une opportunité unique de les voir avant qu'ils ne disparaissent à nouveau.
Je reviens sur ce terme de vente de la décennie. Vous l'avez dit, les enfants Rockefeller s'intéressent à d'autres choses. Mais est-ce qu'il y en aura encore des collections comme ça?
Peut-être.
Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui constituent ce genre de collection.
Oui.
Je crois qu'il existera encore des collections de cette ampleur, mais chaque collection reflète le collectionneur. Et donc, à chaque fois, c'est un regard sur une époque. Quasiment toutes les peintures que nous avons ici ont été peintes à Paris, fin 19e, début 20e. Elles racontent merveilleusement les grands changements de cette époque, dans la société française, mais aussi partout dans le monde.
Jonathan Randall, donc vice-président de Christie's France, doublé ici par Benoît Bouscarel, qui est donc la cheville ouvrière de cette vente. Alors évidemment, on a compris, les montrer à Paris 5 jours, c'est court, c'est pour que vous ayez ce petit moment d'émotion où vous verrez notamment ce Picasso absolument incroyable qui n'a pas été vu en France depuis plus de 40 ans. J'ai demandé à Édouard Bocon-Gibault, qui dirige Christie's France, si, puisque nous avons l'honneur d'avoir cette collection à Paris, il y avait encore vraiment des acheteurs en Europe qui étaient capables d'acheter des pièces dont certaines sont estimées à plusieurs dizaines de millions d'euros.
Il reste, heureusement, des collectionneurs français et des collectionneurs européens intéressés par l'acquisition de ces chefs-d'œuvre, que ce soit des collectionneurs depuis de longues années ou des néo-collectionneurs intéressés par ces chefs-d'œuvre que nous présentons. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a un renouvellement permanent des acheteurs. On dit toujours que le salut des maisons de vente passe par la relève de la clientèle asiatique. C'est vrai, mais pas seulement. Vous avez une clientèle européenne, une clientèle américaine qui reste fondamentalement intéressée par ces œuvres, quel que soit leur niveau.
Est-ce que vous avez aussi des musées, qui ne sont pas des particuliers, qui peuvent être intéressés par ce type de vente?
Bien sûr. Vous avez des institutions mondiales, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales, qui, bien évidemment, peuvent acheter en vente ce genre de tableau. Et je suis à peu près sûr qu'un certain nombre d'entre elles et des majeures seront présents dans la salle à New York pour enchérir sur des chefs-d'œuvre qui manquent à leur collection aujourd'hui.
Quel est le rôle d'une maison comme ça face à une collection, j'ai envie de dire, de si haute volée, de vos experts notamment?
Lui donner tout le lustre possible, lui donner toute la gloire et l'exceptionnelle attention qu'elle mérite. C'est une collection qui était en main privée, qui n'était vue par personne. Si je vous donne l'exemple du Picasso qui est derrière vous, lorsque le Grand Palais a fait une exposition consacrée à Gertrude Stein et Picasso, ce tableau n'avait pas été prêté parce que les familles Rockefeller souhaitaient le garder à cette occasion. Et c'est donc la première fois depuis 1968 que ce tableau revient à Paris. Et je pense que c'était extraordinaire qu'on puisse le proposer à tous les visiteurs parisiens. C'est un tableau qui a une histoire extraordinaire puisqu'il a été acquis par Gertrude Stein en 1905. C'est le deuxième Picasso seulement que Gertrude Stein a acquis, qui est resté aux mains de la compagne de Gertrude Stein jusqu'à sa mort en 1968 et acquis à ce moment-là pour les Rockefeller. Donc le prochain propriétaire en 113 ans, on sera seulement le troisième propriétaire. Donc au-delà du chef-d'œuvre, c'est quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de l'art.
Voilà, Édouard Bocongibeau, donc cette collection estimée au moins à 700 millions d'euros. Je rappelle que, alors on l'a entendu, les Rockefeller ne prêtaient pas leurs tableaux quand ils étaient encore en possession, mais l'intégralité des bénéfices de cette vente seront reversés à des associations caritatives. La famille n'en touchera pas un dollar. Théoriquement, c'est ça qui va se passer.
Et pour terminer l'actualité de cette semaine, on parle maintenant de Black Panther. Le film a déjà rapporté plus d'1,2 milliard de dollars au niveau international, avec près de 605 millions de dollars dans le marché domestique américain, qui comprend à la fois les États-Unis et le Canada. En France, plus de 3 millions d'entrées ont déjà été réalisées. C'est le septième film plus gros démarrage de l'histoire aux États-Unis. On verra d'ailleurs si le film tient ses promesses. En tout cas, c'est un succès qui méritait d'être décrypté dans Soft Power. On avait déjà parlé de ce film à deux reprises, notamment à travers sa musique, mais on est avec vous, Rokhaya Diallo, ce soir. Vous êtes présentatrice, animatrice, journaliste à BIT, BIT, la chaîne de télévision Black Entertainment Television dans son édition française. Pourquoi ce film, d'une part, marche-t-il selon vous ?
Je pense qu'il y a, plein de raisons. La première, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'il s'inscrit dans une continuité Marvel. Hein. C'est le personnage de Black Panther est déjà apparu dans Captain America Civil War et il sera
et on va
aussi
le revoir dans Avengers
Infinity
War, donc, qui voilà, sera le 25 avril qui sort.
Voilà, vous êtes très bien documenté. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Il s'inscrit vraiment dans une continuité. Et puis après, effectivement, ce film fait mentir le préjugé qui a cours depuis très longtemps dans le cinéma, qui dit que les spectateurs ne peuvent pas s'identifier à des personnages qui ne sont pas blancs et que de ce fait les films qui ont des personnages en majorité et là dans la quasi-intégralité pour ce film blanc ne peuvent pas fonctionner et là c'est tout le contraire qui se produit donc je pense que
c'est d'ailleurs une distribution noire mais aussi un réalisateur noir et une
absolument
équipe très largement noire donc un choix presque politique je dirais de la
tout
part de la production
et ce n'est pas n'importe quel réalisateur noir c'est Ryan Coogler qui a été remarqué pour un film qui s'appelle Fruitvale Station qui avait marqué Sundance il y a quelques années et qui parlait des violences policières aux États-Unis en retraçant le parcours de Oscar Grant qui était un homme qui est mort en 2009 de violence américaine. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très politisé et faire appel à un réalisateur comme lui pour un film Marvel, ça veut dire quelque chose. Et puis c'est un film qui parle de noir mais qui parle aussi d'Afrique. C'est quelque chose aussi de particulier parce qu'il montre l'identité noire dans son caractère assez plastique, donc à la fois le caractère des Africains, enfin la situation géographique des Africains, mais aussi la question de la diaspora. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir aujourd'hui ?
Et puis la question de l'immigration, la question de l'esclavage avec, au fond, l'histoire c'est, on peut revenir un peu sur la thématique, au fond, c'est y a un débat entre le bon noir et le mauvais noir, entre le noir qui, d'une certaine manière, fait le bien et celui qui, pour des raisons psychologiques, familiales, un peu shakespeariennes d'ailleurs, puisque son oncle a été tué par son frère. Donc là, on est quasiment dans une scène un peu à la Hamlet. Hein. D'ailleurs, il y a des certains passages, on est dans Hamlet, avec vraiment le fils qui parle à son père et qui veut se venger comme son père le lui demande et qui, à un moment donné, décide de ne plus le faire et décide de rompre avec la tradition pour accepter la modernité. C'est aussi ça, Shakespeare.
C'est ça aussi, et c'est vrai que Eric Killmonger est plus que qu'un personnage qui veut se venger, c'est un personnage qui veut agir pour sa communauté, y compris en usant de la force. C'est-à-dire que lui, la question qu'il pose, c'est il met le Wakanda, donc ce royaume fictionnel africain, qui a décidé de vivre en autarcie, il le met face à sa responsabilité en leur disant « Vous êtes les seuls noirs au monde qui avaient un certain pouvoir, qui avaient de l'argent, qu'est-ce que vous faites pour les autres noirs qui, à travers le monde, comme moi qui suis d'Oakland, Californie, souffrent ?» Donc il y a cette question-là
qui
se pose.
Et le film termine un peu presque en beauté, mais aussi on pourrait dire presque un peu d'une manière trop facile,
ouais,
sur le thème on va créer des associations humanitaires aux États-Unis regardez
oui, voilà,
comment les Noirs vont aider les Noirs avec
absolument
quand même celui qui accepte de mourir et qui dit au moment où il accepte quasiment alors qu'il aurait pu être soigné le héros noir mauvais entre guillemets, ouais, nos ancêtres sautaient des bateaux la mort est préférable que les chaînes et il accepte de mourir plutôt que d'aller en prison. Devenir esclave ou devenir en prison.
Mais oui, et pour moi, ce n'est pas une question qui est nouvelle dans les Marvel. C'est la question de l'antagonisme entre deux choix politiques. C'est la question qu'on peut trouver aussi dans les X-Men. Parce que entre Professeur Xavier et Magneto, c'est la question de l'autonomie ou la question de l'intégration. Et pour moi, cette question-là, elle est pas, c'est pas quelque chose qui est spécifique à Black Panther. Et je trouve que c'est intéressant de faire une analogie justement entre Magneto et Eric Killmonger, qui lui ne survit pas, mais qui fait un choix absolument radical, qui est le choix de mettre sa communauté en priorité par rapport aux gens qui parfois lui causent des dommages assez importants.
Bah oui, justement, vous avez tout à fait raison de dire ça, parce que c'est vrai que dans tous les Marvel, et même dans tous les méchants sont jamais des méchants, on va dire, intrinsèquement méchants. C'est toujours des gens qui ont été trop blessés par la vie et qui ont mal tourné, qui ont accumulé de la haine. Là, en l'occurrence, c'est ça. Je crois que Ryan Coogler, il n'a pas cessé d'insister sur le fait qu'il était, il voulait un casting noir. Il y a deux personnages blancs, dans ce film. Un qui est un agent de la CIA qui va rallier la cause de Wakanda, et un autre qui, alors on sait pas très bien d'où il vient, on sait pas s'il est allemand ou américain, qui est le trafiquant d'armes, le méchant pur, mais qui n'a pas grand intérêt. Le grand antagoniste, c'est aussi un noir, et c'était important pour Ryan Coogler de le dire. Et c'est en fait quelqu'un juste qui a plus souffert. Ce qui est marrant, c'est que ce personnage finalement de T'Challa, qui est donc le héros, c'est celui qui a eu toutes les bonnes conditions. En gros, ça veut dire quand on a eu les bonnes conditions, qu'on a eu un bon pays, qu'on a eu une bonne éducation, qu'on est paré pour la vie, alors que quand on a pris très cher, la seule solution, c'est la haine. Donc c'est un film
Black
qui, de ce point de vue-là,
si on peut dire.
Non, mais c'est un film qui, après, ça peut poser des questions politiques, parce que c'est vrai que celui qui amène le terrain de la politique réellement, c'est plutôt celui qui est considéré comme le méchant. Et finalement, il y a une espèce de résolution très américaine, voilà, avec l'œuvre de charité à la fin, qui est vraiment quelque chose de très anglo-saxon avec lequel on peut avoir du mal, nous, c'est-à-dire le principe de tout résoudre en faisant de l'aide internationale, alors qu'on sait quand même que si ça devait marcher, ça aurait peut-être marché depuis longtemps. Ouais.
Rokhaya Diallo.
Alors, ce que je trouve aussi intéressant dans le film, c'est vraiment le rôle des femmes.
Oui, c'est aussi un film sur la question des femmes qui prennent le pouvoir, qui se battent.
Voilà, Okoye, qui est la responsable, enfin la générale de l'armée wakandienne, c'est une femme qui est extrêmement
forte.
Elles
sont extrêmement bien habillées.
Voilà, il y a un travail sur l'esthétique qui est extrêmement fort, sur le stylisme, avec des inspirations de part et d'autre du continent africain, y compris d'Afrique du Nord. Donc, on voit vraiment que toutes les références esthétiques africaines sont là. Il y a la question aussi du colorisme qui est traité de manière. C'est une question qu'on ne connaît pas bien en France, mais dans l'échelle esthétique, en fait, les peaux sombres ont une valeur moindre. Donc généralement dans les films américains, en fait, les personnages noirs qui sont présentés ont la peau claire et les cheveux lisses. Et là, il y a vraiment quelque chose de promouvoir des peaux foncées, de voir le personnage de Okoye qui rejette sa perruque quand elle est forcée à en porter une. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça explique aussi le succès auprès des communautés afro-américaines, parce que ce sont des questions qui sous-tendent ces communautés.
Il y a aussi un mélange très intéressant, travailler à la fois sur la musique et aussi sur les personnages, mais aussi les armes, par exemple, d'Afrique extrêmement traditionnelle. Alors c'est le rhinocéros qui devient une arme à feu, et les vaisseaux spéciaux de l'autre côté. Vous avez la musique afro traditionnelle et puis le rap ultra moderne avec une bande originale qui a évidemment eu un grand succès puisqu'elle est signée Kendrick Lamar avec tout un tas d'artistes top one un peu partout dans le monde. Ça aussi, vous voyez cet aspect-là du film ?
Ça fait complètement sens parce que voilà, je rappelle que Scorsese avait produit un documentaire qui s'appelait Du Mali au Mississippi en trouvant les origines du blues américain au sein du Mali. Donc le fait de mettre de la musique africaine, de la lier à la musique moderne qui a été produite par les afro-américains, ça fait sens historiquement, et je trouve ça assez joli. Effectivement, il y a même des scènes de combat où un des groupes en fait ethniques du Wakanda utilise leurs vêtements, le tissu, comme un bouclier. Donc ça, c'est quelque chose qui valorise effectivement l'esthétique africaine, les esthétiques africaines, et qui d'une certaine manière aussi contrebalance ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, qui est le fait que beaucoup de productions et de créations artistiques d'origine africaine sont promues par d'autres personnes qui en tirent le bénéfice sans créditer les créateurs originaux. Donc là, je trouve que c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'en fait tout le monde a envie de porter le pagne, de porter le boubou, sans que ce soit associé à quelque chose de négatif comme c'est le cas généralement, parce qu'on associe ça aux personnes issues d'immigration, et c'est pas forcément quelque chose qui est porté à ce niveau-là.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors deux choses. La première, c'est que c'est pas la première fois que Marvel met en avant un héros noir, puisque Netflix a diffusé la série Luke Cage, qui se situe à Manhattan, donc un super-héros qui essaye de faire le bien malgré lui, puisque c'est pas ce qu'il veut au départ. C'est quelqu'un qui veut rester discret. Donc c'est quand même la deuxième tentative de Marvel de ce point de vue-là, et je pense que Luke Cage, qui a eu une réception critique très très bonne, a dû aider aussi au développement de Black Panther au cinéma. Et puis le deuxième point, c'est que depuis maintenant quelques années, Marvel le risque pour Disney, c'est qu'à un moment donné, il y a une saturation des super-héros et il y a une tendance à Marvel à s'ouvrir à la diversité au sens large. Donc par exemple, on a vu apparaître un Spider-Man afro-latino qui s'appelle Miles Morales. C'est en comics pour l'instant, on n'a pas vu d'adaptation au cinéma, mais peut-être que ça viendra. On a vu une Miss Marvel musulmane qui s'appelle Kamala Khan, qui est d'origine pakistanaise dans les comics de Marvel. On avait aussi une Thor en femme, donc alors que normalement c'est le dieu du tonnerre, là c'était une déesse. On a vu un Iceman qui était gay, homosexuel, qui s'est même marié, il y a même eu un mariage dans un des comics, mariage gay dans un des comics de Marvel, ce qui a suscité aussi un débat aux États-Unis.
Et ça n'a pas très bien marché globalement pour.
Alors deux ans après ou trois ans après, effectivement, il se trouve que les comics sont en baisse en général, et donc moins 10% a priori sur l'année 2017. Et donc le risque est de savoir si certains pensent que c'est dû justement à cette trop forte diversité. D'autres pensent que c'est simplement puisque, en fait, on a pris des anciens héros qui étaient plutôt blancs, et qu'on les a, blancs, hétéros, enfin, etc. Et qu'on on les a transformés en asiatiques, en afro-latino ou en noirs.
Ce qui n'est pas le cas de Black Panther, puisque là, pour le coup, on part d'un personnage. Exactement. Et ça serait ça la clé du succès, peut-être.
Très probablement, effectivement.
Oui, une création originale. Mais pour revenir sur le rôle des femmes dans ce film, parce qu'en fait, il y a deux questions qui se posent avec ce film. Est-ce que c'est un film qui est à la hauteur des attentes, notamment sur la raison d'être politique et le geste politique que ça pourrait être, que ça devrait être, qu'on avait envie que ce soit. Et est-ce que c'est un bon Marvel? Je pense que c'est un bon Marvel. Bah, voilà, c'est un Marvel qui fait son job de Marvel et qui d'ailleurs a les qualités et les défauts des Marvel. Après, sur la question politique, il y en a qui se disent déçus, il y en a qui se disent majoritairement déçus, il y en a qui se disent plutôt contents. Le fait est que ça marche effectivement et que ça prouve quand même qu'avec un casting intégralement noir, parce que la vraie question c'était ça, c'était d'avoir un univers qui est entièrement marqué par ça. Est-ce que ça marche? Ça marche. Et puis sur
est-ce que ça peut faire un blockbuster?
Est-ce que ça peut faire un blockbuster? Et alors sur le rôle des femmes, moi je trouve pas que c'est une prise du pouvoir des femmes. Ce qui est vachement bien dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de prise du pouvoir. Elles l'ont déjà quand on arrive dans le film. Et en plus, bizarrement, les deux héros, enfin, le héros et son antagoniste sont des garçons, mais c'est vrai qu'après, le reste, c'est plutôt ces trois personnages-là, voire ces quatre. Donc, la chef des armées, qui est un peu la grande amie du prince, sa mère, Angela Bassett, quand même, la classe à Dallas. Mmh. Et ce qui est aussi génial, et je tiens quand même à le nommer, le dire, c'est qu'il y a ce personnage de Nakia, donc qui est interprété par Lupita Nyong'o, et vous aurez remarqué peut-être dans ce film, vous le verrez, il n'y a pas d'intérêt amoureux. C'est-à-dire que le film commence, on sait qu'ils ont eu une histoire d'amour avant.
Mmh,
lui, il attend, elle n'a pas envie de rester, elle a envie de faire sa vie, lui, il attend d'eux, et la question de l'histoire d'amour ne se pose pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout le truc
américain,
américain
hollywoodien.
Lièvre, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle, non seulement elle est prise dans sa vie, elle a envie de faire des choses, quoi. Et c'est elle qui est très active. Et en fait, on se rend compte à la fin que c'était pas du tout gênant, en fait. On peut vivre sans intérêt amoureux pendant 2h20 et avoir un très bon film à la fin.
Okay, et puis, il y a aussi Shuri, la petite sœur, quand même, qui est vraiment la grosse tête scientifique. C'est intéressant aussi d'associer la tech, la science, à une jeune femme qui est vraiment le grand génie
du
Wakanda. Et puis, je note aussi, je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'il y a un acteur français, quand même, qui joue dans Black Panther, qui
s'appelle Isaac de Bankole.
Voilà, c'est suffisant. Suffisamment rare pour le souligner.
Grand acteur
parti
de Coltès, notamment.
Voilà, c'est ça, qu'on a beaucoup vu aussi chez Jarmusch, qui est parti de France, qui est le premier noir à avoir reçu un César en 1987, donc 25 ans avant Omar Sy, et qui est parti voguer vers d'autres cieux aux États-Unis dans les années 90, et qui aujourd'hui, effectivement, est une figure importante du Wakanda. Donc c'est quand même une petite fierté nationale.
J'aimerais terminer peut-être sur Black Panther par en notant quelque chose qui dépasse un peu ce film-là, mais qui est intéressant aussi, c'est de voir tout simplement à la fin, si vous avez le temps, les génériques, parce qu'il y a trois génériques, avec deux scènes qui repartent au milieu des génériques à la fin, donc vous avez pour 10 minutes de générique. Ce qui est absolument fascinant dans ce film, et si vous regardez attentivement ce générique, c'est que ce film-là est un Airbus. Il a été fabriqué dans des dizaines de studios. Vous avez probablement plus de 3000. J'ai à peu près compté hier soir en ayant revu le film. Wow. J'ai regardé le générique longuement. C'est difficile de compter puisqu'il y a pratiquement 3000 artistes qui ont travaillé dans ce film. Vous avez quasiment une cinquantaine de studios différents. Donc, ce n'est pas Disney, ce n'est pas Marvel. C'est au total 50 studios. C'est-à-dire, vous avez la seconde unité, le studio coréen, l'additional photo, le Marvel Studio, Disney bien sûr. Mais la visualisation, les effets spéciaux, les artistes 3D ont été faits par différents studios un peu partout dans le monde. Et tout ça est assemblé par ce qui est au fond Disney, savoir une banque qui a assemblé tout ça et a produit ce Airbus qui est un film avec des centaines d'artistes, des milliers d'artistes digitaux aussi spécialisés, chacun un petit bout de la production, bien sûr les artistes, les musiciens, les danseurs, etc. Et donc là on voit tout simplement un professionnalisme exceptionnel, une industrie très très nouvelle qui n'est plus celle des studios de l'époque, qui est totalement morcelée, avec tout le monde est sous contrat ponctuel, personne n'est salarié, mais ça donne une production absolument incroyable faite sur tout un tas de pays à la fois. Et je trouve que c'est important de noter aussi cette évolution des industries culturelles vers cette espèce de modèle Airbus, à savoir on l'a construit dans plein de pays avec des milliers d'acteurs partout, et tout ça produit à la fin un film de ce type.
C'est d'autant plus intéressant qu'il s'agit quand même d'une création artistique. Donc qu'est-ce que ça signifie finalement de procéder comme pour des créations industrielles, pour des créations qui ont vocation à avoir quand même à produire de l'imagination, etc. Donc c'est aussi intéressant, oui.
Fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life is living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero? Hero.
Un extrait de la bande originale absolument épatante d'ailleurs de Black Panther, signé Kendrick Lamar et The Weeknd en l'occurrence, Pray For Me. On avait écouté dans les émissions précédentes Soft Power deux autres extraits de cette bande originale. Ça aussi, ça accompagne le succès d'un film, d'avoir une bande originale signée par les plus grands artistes du moment.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Soft Power en direct jusqu'à 20h30. Le sujet de ce soir, les nouveaux critiques culturelles, de la prescription à l'influence. On a utilisé Black Panther un peu comme exemple dont on va parler ce soir. Autour de quatre idées principales pour cette émission. D'abord, on va s'intéresser aux critiques traditionnelles qui sont un peu en perte de vitesse ou d'influence. Que s'est-il passé depuis quelques années pour que le critique de cinéma du Monde, le critique de musique des Inrocks ou le critique littéraire du Figaro, par exemple, aient perdu une partie de leur pouvoir de recommandation et de leur influence? Qui sont les nouveaux critiques qui sont en train de les remplacer, littéraires, musicaux, au cinéma, les sites aussi qui comptent sur les réseaux sociaux, qui ont changé, qui sont en train de transformer cette prescription? Ensuite, on va s'intéresser aux nouveaux outils de la critique culturelle, parfois inattendus, les blogs bien sûr, mais aussi les playlists, les hashtags, les influenceurs sur Facebook et sur Instagram. Et puis dans une troisième partie, on s'intéressera aux algorithmes qui viennent parfois, pour le meilleur et parfois pour le pire, remplacer les critiques culturelles et proposer leurs propres recommandations. Et puis on pourra conclure ce débat sur le futur de la critique en faisant un peu de prospective et en imaginant notamment des outils qui mêleront la prescription humaine et algorithmique, ce qu'on appelle parfois la curation ou la smart curation. Pour parler de ces sujets ce soir, nous sommes avec Rokhaya Diallo, animatrice de BIT, la télévision Black Entertainment Television, Emmanuel Paquette, journaliste Express, et Zoé Sfez, journaliste à France Culture. Premier sujet donc ce soir, la mort du critique traditionnel, ou en tout cas son affaiblissement, et sa renaissance sur le web. Rokhaya Diallo.
Alors, je crois que ce dont on se rend compte, c'est surtout qu'on a des outils qui permettent d'évaluer l'impact des critiques qui sont différents aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque les critiques étaient uniquement circonscrites à des commentaires qui étaient imprimés, on n'avait pas vraiment la possibilité d'évaluer en fait le nombre de personnes qui s'y référaient et qui consultaient ces écrits-là. Donc aujourd'hui, la différence, elle est vraiment là.
C'est-à-dire les chiffres sont sans appel sur ce sujet. On les a regardés, les lecteurs des quotidiens et des hebdos lisent infiniment moins les critiques culturelles et ces pages culturelles que les autres pages. Le changement le plus considérable qu'Internet produise sur les médias, ce n'est pas l'immédiateté ou la baisse d'écoute, c'est la mesurabilité, expliquait un critique, notamment Nick Denton, qui avait fondé un site qui a connu quelques problèmes depuis Gawker, dans un long portrait du New York Times, et il disait ensuite: c'est en réalité effrayant, si vous êtes un critique traditionnel, de voir que personne ne vous lit sur le web.
Bah, ça montre peut-être qu'on leur avait conféré un pouvoir qui n'était pas légitime et qu'aujourd'hui, effectivement, l'impact en tout cas de ces critiques-là est clairement moindre. Et puis après, effectivement, peut-être que ça met à jour aussi une déconnexion par rapport à des goûts qui peuvent être reflétés à travers les appréciations de personnes qui sont différentes. De manière générale, on parle beaucoup de la manière dont les réseaux sociaux ont décomplexé une certaine parole, mettent en avant une parole qui n'est pas forcément une parole qu'on veut entendre, mais de toutes les façons, c'est une manière de démocratiser la prise de parole, la capacité à certaines personnes qui n'étaient pas validées par un processus qui était un processus extrêmement codé, et leur possibilité, en fait, effectivement, de porter à une connaissance extrêmement importante une parole qui n'a pas besoin de passer par un processus de légitimation habituel.
Critique, au fond, de cette légitimité parce que élitiste, elle avait un abus de position dominante, des abus de position dominante, des jugements biaisés, des copies.
Et puis surtout parce qu'il y avait une validation.
Était difficile de se défendre pour le critique face à ses attaques. Au fond, quelle était sa légitimité ? Bien, il n'en avait pas vraiment.
Parce que quand même les critiques ont certaines qualités, une certaine expertise. Mais ce que je veux dire, c'est que les processus en fait qui permettaient à une certaine parole d'émerger et à une autre de ne pas avoir d'audience, eh bien, sont abolis par la technologie. Et donc c'est différent. Aujourd'hui, la parole, on a vécu pendant plusieurs décennies dans la culture de la parole autorisée. Cette parole était autorisée parce que certaines personnes avaient accès à certains espaces et à certains codes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et effectivement, ça met à jour peut-être une déconnexion de certains critiques par rapport au goût de la majorité de la population.
Zoé Sfez, on peut dire qu'il y a une sorte de fin des hiérarchies culturelles, des mélanges des gens, et cette démocratisation culturelle qui a cassé ou couper une part de la légitimité aux critiques.
Mais c'est pas uniquement la démocratisation culturelle, je crois qu'il faut aussi se rappeler que la France des années 50, je me rappelle moi d'avoir interviewé Bernard Pivot qui nous disait que quand il a démarré au Figaro littéraire, il y avait 12 pages dans le carnet du Figaro littéraire avec les ragots et que lui, on l'envoyait traîner à Saint-Germain pour avoir des bons mots de Sagan bourré. Enfin, je veux dire, il faut se rappeler aussi la place, par exemple, que la littérature et que tout ce monde-là, dans un monde dans les années 50 où il y avait la télé, où on s'intéressait beaucoup moins aux États-Unis, c'est-à-dire les gens eux-mêmes consommaient quelque chose de beaucoup plus disons resserré, et donc il y avait une espèce après effectivement il y a une démocratisation et de la culture et de la création. Maintenant aujourd'hui tout le monde crée, donc en plus vous êtes d'autant moins enclin à recevoir à vous référer à une critique de Libé quand vous-même vous êtes déjà en train de voir
faire
des petits
critique.
Films tous les gens sur YouTube, exactement. Après faut pas oublier non plus que ce qu'on appelait le bouche à oreille est devenu maintenant presque
est devenu
le buzz là-dessus. Après moi je pense que toutes ces questions-là existent et continuent exister. Il ne faut pas oublier aussi que les gens sont eux-mêmes beaucoup plus consommateurs de culture qu'auparavant sur les terrains qui les intéressent. C'est-à-dire que, évidemment, les grands lecteurs étaient des grands lecteurs. Ils avaient envie, quand on parle de la critique littéraire, d'avoir des voix sur lesquelles ils les suivaient. Aujourd'hui, on a des gens qui regardent des dizaines de séries plusieurs heures par semaine, ce qui n'était peut-être pas le cas dans les années 50, dans les années 60. On n'avait pas ce temps-là. Et donc, on n'avait pas nous-mêmes la sensation d'avoir une expertise de ce type-là. Donc il y a tous ces phénomènes-là et qui arrivent, mais quand j'entends ce que dit Roger, je pense que c'est vrai. Et je pense que le terme de critique a-t-il jamais été le bon ? C'est une vraie question, parce que qu'est-ce qui intéresse ? Et c'est encore une vraie question que je me pose, moi, toujours. Je suis pas une grande fan des critiques normatives, c'est bien, c'est pas bien. Et je pense que plus, d'ailleurs, le critique a vu son pouvoir s'affaiblir, plus il a été là-dedans, bizarrement. Il a été dans la sanction
Alors
qu'il faudrait, théoriquement, le seul moment où il est intéressant, c'est le moment où il est clair. C'est pas où il nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est le moment où il préconise, où il donne des exemples. Il y a, par exemple, des formats sur Internet qui marchent très bien, qui sont pas la critique. Vous prenez un format comme Blow Up, qui est produit par Arte, qui est une absolue merveille, où c'est quelqu'un qui totalement subjectivement va vous dire la gare au cinéma et va vous monter des séquences de gare dans 120 films dans l'histoire du cinéma. C'est les siens, il fait son propre top 5, il revendique sa subjectivité, mais ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ? Parce qu'il vous explique pourquoi vous aimez telle scène, parce qu'il va vous montrer d'autres choses. Il n'est pas dans le c'est bien, c'est pas bien. Il va vous expliquer pourquoi est-ce que cette scène vous touche. Vous savez qu'elle vous touche. Elle vous touche parce qu'il y a un travelling arrière et un zoom et que le personnage sort du cadre. Et à ce moment-là, vous vous sentez plus intelligent. C'est là où le critique a son intérêt.
Emmanuel Paquette.
Oui, pour moi, tout ça est faux. Tout simplement pour une chose qui est simple, c'est que les avant-premières. C'est-à-dire que les journalistes ont toujours accès aux avant-premières, ont toujours accès aux livres avant les autres, et ont toujours accès aux albums avant les autres, donc ils peuvent faire la critique avant les autres. Donc ils ont une fenêtre d'exploitation qui est inédite, qui est fraîche, et qui arrive avant n'importe qui.
Oui, mais alors, en même temps, on sait que les blogueurs sont invités aujourd'hui aux avant-premières, ils reçoivent aussi les livres.
Pas toujours. C'est vrai aussi qu'il y a des exceptions. Il y a, les journalistes eux-mêmes ne sont plus
inventés. Et puis les films sont sortis sur Internet avant même qu'ils sortent en salle,
ça
et
peut
donc
arriver.
On peut les critiquer.
Ça peut arriver, mais pas toujours. C'est pas le cas des films français, par exemple. C'est assez rare de trouver des films français sur les réseaux, les réseaux téléchargement avant leur sortie en salle. C'est plus vrai pour certains films américains, notamment quand ils concourent aux César, aux Oscars par exemple, où là on peut retrouver les copies très vite, comme La Forme de l'eau qu'on a retrouvé tout de suite sur Internet la veille des Oscars. Mais disons que tant qu'il y a cette fenêtre-là de première exploitation, entre guillemets, de la critique qui existe, ça va être compliqué encore, pendant un certain temps, d'avoir une concurrence frontale, même si elle existe. Hein.
Mais c'est une fenêtre très courte, parce qu'en fait, là ce que vous êtes en train de dire, vous avez raison, ils ont souvent une semaine, deux semaines. Là vous parlez beaucoup du cinéma et des séries, qui quand même, si on parle des bouquins, moi je vais vous dire très clairement, on a invité quelqu'un dans une émission très récemment qui m'a dit, moi je viens pour le plaisir, parce que je sais que quand je viens chez vous, France Culture, je vais avoir 10 livres qui partent le lendemain, alors que la dernière fois j'ai fait une courte interview chez un youtubeur, on en a commandé 200 le lendemain sur la
page. Justement,
donc
là on a des...
sur les livres, on traite de la culture sous tous ses angles, on a des endroits, des domaines où il y a des spécialisations, évidemment il faut qu'on parle des nouveaux influenceurs.
Alors les nouveaux influenceurs, il y a des dizaines de nouveaux sites qui connaissent certains succès, on peut citer Rotten Tomatoes, Metacritic, Letterboxd avec un D à la fin, Sens Critique. En ce qui concerne le livre, on peut noter des sites comme Babelio, La République des Idées, Goodreads qui a été racheté par Amazon, le supplément littéraire de BuzzFeed ou de Slate aux États-Unis, et même Mark Zuckerberg qui avait recommandé des livres sur une page Facebook dédiée à ses lectures. Il avait pris la résolution de lire un livre toutes les deux semaines et d'en parler. Bon, il a arrêté depuis, mais c'est un bon exemple. On a parlé aussi à propos de tout ça, des mini Oprah, en fait une sorte de la grande prêtresse de la recommandation des livres, mais c'était une émission télé. Maintenant, il y a des milliers de petits Oprah Winfrey, Rokhaya Diallo.
Oui, alors je veux juste rebondir rapidement sur ce qui a été dit sur les critiques et leur accès à des projections en avant-première ou des projections presse. Déjà, je trouve que ça les coupe quand même d'une certaine manière de voir aussi le film. Quand on va voir un film en projection presse, les réactions, elles n'ont absolument rien à voir avec les réactions qu'il peut y avoir dans une salle. Donc je trouve que ça les fait aussi passer à côté de ce que peut provoquer un film à une audience de personnes qui sont les gens normaux. En fait, ils regardent pas les films avec une grille de lecture extrêmement sérieuse ou extrêmement experte. Donc ça, pour moi, c'est
important. Et alors sur le basculement de la prescription à l'influence, notamment en révolution majeure de toute la sphère culturelle, notamment à cause d'Internet.
Eh bien, si on revient par rapport au ce qu'on a dit sur les booktubers, sur l'influence par rapport aux personnes qui, en fait, ces gens-là sont suivis par des communautés qui ont confiance en eux. Donc c'est très différent. C'est-à-dire que le critique, on s'en sent distant. On s'en sent distant parce que il ou elle vient souvent avec un ton, avec une manière de traiter l'information relative aux produits culturels qu'il commente, qui peut être sentencieux. Hein, on a parlé de c'est bien, c'est pas bien, etc. Alors que souvent les youtubeurs, les personnes en tout cas qui commentent l'actualité culturelle sur Internet, le font avec une forme de sincérité, en tout cas ce qui apparaît comme une sincérité qui permet aux gens de s'identifier. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux et pour les gens qui les suivent, parce que les gens arrivent en confiance en se disant si cette personne-là qui me ressemble d'une certaine manière a aimé tel ou tel livre pour des raisons qui sont des raisons aussi qui sont audibles et compréhensibles, parce que parfois les références culturelles absconses ne motivent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un nous parle de
Jean-Luc Godard, oui.
Voilà, c'est pas très prescripteur. Évidemment, ça valorise la personne qui en parle, mais dans quelle mesure ça permet vraiment, ça incite les gens à aller au cinéma, je ne suis pas certaine du résultat.
Emmanuel Paquette, un mot sur Rotten Tomatoes. Qu'est-ce que c'est exactement et le succès de ce site aux États-Unis?
Alors, c'est un site qui a 20 ans, puisqu'il a été créé en 1998, qui littéralement veut dire tomate pourrie. L'idée, c'était de demander à toutes les personnes qui regardent un film leur avis, leur opinion sur le film qu'ils ont pu voir, en donnant une note. Et il se trouve qu'ils ont créé plus récemment ce qu'on appelle le Tomatometers. Donc c'est un métrage de tomates, si je puis dire. Donc c'est quand on a plus de 60% d'avis positifs, ça veut dire que le film a une tomate rouge, et donc on conseille vraiment d'aller le voir. En dessous de 60%, on a une tomate verte, ça veut dire une tomate pourrie, et là, ça veut dire que vous pouvez vous abstenir d'aller voir ce film. Alors après, là-dessus, une fois qu'on a dit ça, il se trouve que Rotten Tomatoes est considéré par une partie d'Hollywood aujourd'hui comme faisant la pluie et le beau temps de toute l'industrie cinématographique, puisque généralement, un film, au bout de la première semaine d'exploitation, on connaît à peu près son devenir économiquement, savoir s'il va être rentable ou pas rentable. Donc si la première semaine, les critiques se déchaînent, les critiques donc de monsieur et madame tout le monde, pour le coup, puisque là, on parle pas de critiques journalistiques classiques, critique, même si elles apparaissent aussi sur Rotten Tomato, à ce moment-là, le film peut s'éteindre et mourir assez vite. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me.
France Culture, il est 19h49, on est ce soir avec Rokhaya Diallo, présentatrice à BET, Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express et Zoé Sfès de France Culture. On parle de l'avenir de la critique, des nouveaux critiques culturelles, de la prescription à l'influence. Et à l'instant, on diffusait un extrait de Drake, God's Plan, un morceau qui a eu un succès considérable, mais qui est intéressant aussi parce que cette semaine, Drake est apparu sur une chaîne un peu spéciale, une chaîne de joueurs sur le site Twitch qui appartient à Amazon. Et Twitch, en fait, ça montre tout simplement des gens qui jouent aux jeux vidéo. Et le simple fait que Drake soit allé jouer avec un jeu qui s'appelle Fortnite, ça a suscité un pic de plus de 660 000 spectateurs qui sont du coup allés voir jouer Drake à ce jeu vidéo. Là, on voit un exemple d'influenceur très très inattendu, puisque d'abord, c'est un mélange des genres entre le jeu vidéo et la musique. C'est aussi quelque chose qu'ont fait d'autres artistes auparavant, Post Malone, Snoop Dogg ou Lil Yachty l'avait fait. La frontière d'une industrie culturelle et une autre est plus poreuse, et on voit un artiste au fond faire la promotion d'un jeu vidéo. Ça montre tout un tas de nouveaux influenceurs. On pourrait citer les youtubeurs, ça a été dit, les booktubeurs qui parlent de livres sur YouTube. On peut évoquer les instagrammeurs et en particulier les instapoètes qui postent de la poésie. Aujourd'hui, Instagram est devenu la plateforme des poètes de manière très inattendue, puisqu'on ne pensait pas qu'Instagram pourrait servir à ça. C'est aussi le cas sur Instagram des influenceurs très nombreux en matière de mode, d'automobile, de montres, mais aussi des artistes eux-mêmes qui postent la plupart du temps leur book pour faire connaître leur œuvre. Comment vous voyez, Rokhaya Diallo, les évolutions des réseaux sociaux en particulier ?
Alors, ce qui est intéressant avec ce qui s'est passé avec Drake, c'est qu'il a fait la promotion d'une plateforme de jeux vidéo, mais sans en faire la promotion au premier degré, c'est-à-dire qu'on l'a vu en train de jouer, donc ça l'a montré dans une activité en tant que joueur. Donc c'est très différent de l'époque où les stars s'affichaient dans une mise en scène qui ne donnait pas le sentiment nécessairement que dans leur quotidien ils pouvaient avoir un réel besoin du produit dont ils vantaient les mérites. Mais c'est plutôt quand même en contradiction avec la réelle influence des personnes qui sont des influenceuses sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que même si les stars sont suivies par un nombre de personnes assez importantes, les personnes qui sont des micro-influenceurs, qui ont des moins de followers, moins de personnes qui les suivent, sont plus influentes dans le sens où leurs communautés sont beaucoup plus engagées auprès d'eux, et c'est vrai qu'auprès d'elles et auprès d'eux, et c'est vrai que lorsqu'elles préconisent des produits, surtout lorsqu'elles installent des collaborations un peu construite avec des marques, donc pas un jour recommander telle marque et un autre jour recommander quelque chose de différent, mais vraiment installer une collaboration plus suivie, plus construite, eh bien elles peuvent vraiment avoir un impact extrêmement fort. Et c'est intéressant de voir aussi que finalement les marques vont peut-être avoir plus intérêt à recourir. On parlait par exemple de Black Panther tout à l'heure, lors de l'avant-première à Londres, Disney en fait a identifié les plus grands influenceurs noirs de France et donc a envoyé Black Beauty Bag, qui est une influenceuse d'Instagram beauté, a aussi envoyé un youtubeur extrêmement connu. Ils les ont envoyés à Londres pour interviewer le cast de Black Panther. Donc ça montre bien que c'est plus intéressant en fait de les avoir eux comme journalistes improvisés que d'avoir des journalistes finalement qui sont formés au journalisme ou en tout cas qui ont l'habitude d'interviewer des stars.
Alors dans les nouvelles formes, les nouveaux influenceurs, il y a des formes très inattendues. Par exemple la playlist. Aujourd'hui, être dans une playlist, ça vous permet d'avoir un pouvoir de prescription. Par exemple dans le jazz et le smooth jazz, tout le monde entend figurer dans la playlist Coffee Table Jazz qui compte déjà plus de 1,4 million d'abonnés. Et du coup, c'est aussi un modèle économique, puisque être dans cette plateforme, ça vous assure une diffusion et donc des revenus importants en stream. Les forums de discussion qui se multiplient sur de très nombreux sites, IMDB qui appartient également à Amazon, Deadline Hollywood ou en France Allociné. On peut évoquer Snapchat où on poste là encore des snaps qui vont être de la prescription culturelle ou des stories qui vont accompagner des films, des livres, etc. Et puis Emmanuel Paquet, il y a tout cette évolution autour des algorithmes. Alors c'est le cas sur Amazon où l'algorithme vous recommande un livre à partir de vos achats précédents. C'est le célèbre « Vous avez aimé Elena Ferrante et vous aimerez, je sais pas, Pierre Lemaitre » par exemple. De la même manière, Spotify, Deezer, Apple ou Tidal, Apple Music vous recommandent de la musique en fonction de vos écoutes précédentes. Et on sait que Netflix le fait également avec plus de 77 000 sous-genres qui ont été identifiés. Et avec ces sous-genres, ça vous leur permet de vous proposer des films ou des séries télévisées à voir. L'algorithme, pour vous, Emmanuel, sera-t-il le futur critique culturel ?
Écoutez, l'algorithme peut être l'avenir, mais sachant qu'un algorithme, un, ça se programme. Deux, on peut lui faire à peu près ce qu'on veut, ça se manipule. Et de ce point de vue-là, on a vu dans l'industrie culturelle des algorithmes qui ont été manipulés justement pour se retourner contre les créateurs même du produit ou en l'occurrence du bien culturel qui était créé. Quand on voit par exemple en 2016 le film Ghostbusters qui a été lancé, c'était un reboot ce qu'on appelle, c'est-à-dire on refait le film blockbuster avec des femmes. Il se trouve que sur YouTube, la bande-annonce a suscité pour la première fois un ratio totalement déséquilibré entre les dislikes, enfin je n'ai pas aimé, et les likes. La bande-annonce a recueilli 1 million de dislikes contre 300 000 j'aime Ghostbusters, avec des commentaires derrière qui étaient « Les femmes ne peuvent pas être drôles ». Ce n'est pas moi, c'est ce qui est les commentaires sur YouTube. Le féminisme détruit le monde. Elle ne devrait pas être plutôt en cuisine plutôt que de tourner un film. Et le film a été une catastrophe au box-office. Il a été réduit à néant. Donc on voit que là, on a essayé de pousser sur YouTube une bande-annonce qui, normalement, est mise en avant par les algorithmes de Google. Et qu'en réalité, il y a eu un affolement. On ne sait pas trop de qui en
réalité. On l'a eu aussi avec Black Panther, Emmanuel.
Oui, exactement. Sur Black Panther, ça a été à peu près la même chose. Il y a une ligue qui s'est créée sur Twitter qui s'appelle Breakdown Disney, donc ça veut dire mettre à bas Disney, qui aujourd'hui attaque systématiquement tous les films Disney qui sortent sur Twitter. Il y a eu les précédents Star Wars, il y a eu Black Panther, et prochainement, ils veulent s'attaquer à Han Solo en disant allez sur Rotten Tomatoes, dont on a parlé précédemment, mettez, même sans avoir vu le film, des avis négatifs. Pour que ça engendre en fait ces avis négatifs massifs, engendre une désaffection des salles et détruise le film et donc Disney.
Ok, il y a dialogue peut-être pour terminer sur cette question d'algorithme.
C'était intéressant aussi sur Black Panther en France. Ouais. Il y a eu une tentative aussi d'une certaine manière dénigrer le film avec des associations où effectivement Allociné et Google se sont renvoyés la balle. Mais lorsqu'on cherchait sur Allociné l'affiche de Black Panther, on tombait sur la planète des singes. Donc ce qui était vraiment une association raciste, mais qui fonctionnait du coup, qui vraiment a complètement été répandue sur Internet. Mmh. Et où en fait, d'un côté comme de l'autre, que ce soit Google ou Allociné, les deux se disaient non, mais on a absolument pour rien, c'est pas notre faute, etc. Alors qu'on voyait qu'il y avait une manipulation malveillante.
Peut-être pour terminer cette émission, on pourrait évoquer le fait que il y a aussi de nouveaux modèles qui sont en train de se constituer, qui sont des modèles de mélange, qui à la fois utilisent de l'algorithme, mais aussi donc des données, mais aussi des jugements humains. Alors on peut citer par exemple le système de recommandation de Spotify baptisé Discovery Weekly, ou Découvert de la semaine en français, qui est pour ceux qui sont abonnés à Spotify, tous les lundis matins, ils reçoivent des recommandations et qui sont faites par trois filtres. Le filtre personnel, qui s'inspire de ce que vous avez écouter durant la semaine qui précède, un filtre mainstream, au sens que ce sont les grandes écoutes massives du moment de beaucoup de millions de gens, et puis un filtre d'influenceurs basé sur des dizaines de DJ, de responsables de labels, de critiques, de blogueurs ou d'artistes et même de programmateurs de festivals. Et on voit là que paradoxalement, ça réintègre les prescripteurs presque traditionnels et les médias d'ailleurs, qui reviennent via ce troisième filtre. Il y a d'autres exemples, les enceintes connectées, qui bientôt vont vous proposer de la musique puisqu'elles ont la capacité de le faire, et puis des dizaines de start-up, de sites, d'applications qui s'inspirent de tous ces modèles mixtes et qui proposent des solutions de recommandation innovantes qui mêlent donc des données et des humains. Tout ça montrant une évolution de la critique tout à fait surprenante et dont on verra peut-être dans les années à venir les évolutions. Zoé Sfez, pour terminer.
Alors oui, et puis d'ailleurs on avait invité ici il y a quelques semaines Sounds Good qui fait de la curation avec et en partenariat notamment avec des plateformes, mais moi je suis quand même moins
optimiste.
Moins pessimiste que vous. Je pense que le terme qu'on a, tout à l'heure Okaya faisait comme si les critiques et d'autre part les influenceurs étaient des gens qui n'avaient rien à voir. Alors je pense que c'est vrai, il y a des critiques d'une soixantaine d'années qui viennent d'un certain monde et les influenceurs.
C'est plus un continuum.
Mais je pense que dans un continuum, des gens qui ont 25, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, ils vont être entre les deux. Et il n'y aura plus cette espèce de distinguo et que je pense que malgré tout, malgré les algorithmes, malgré tout, les gens sont de plus en plus demandeurs de culture. Ils ne seront plus demandeurs de ce qu'il faut discours qu'ils aillent voir et de normativité de c'est bien, c'est pas bien. Mais par contre, je pense qu'ils seront toujours demandeurs d'éclairage. Vous parliez d'expertise. Je pense que la culture, de toute façon, plus on a accumulé de regards dessus, plus quand même on en profite. Et si on arrive à le faire avec sincérité, vous faisiez comme si les critiques n'étaient pas sincères. Je pense qu'ils peuvent être et sincères et compétents. Il faut plus qu'ils soient normatifs et que globalement, générationnellement, ça va.
Ok, il y a dialogue pour terminer.
Non, je remettais pas évidemment en cause la sincérité des critiques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une spontanéité qui peut-être est inhabituel en fait chez les critiques qui sont peut-être plus habitués, plus blasés en fait effectivement dans l'exercice de leur fonction. Mais je crois qu'effectivement on est en train d'assister à la transformation d'un métier tout simplement.
Merci infiniment à tous les trois, Rokhaya Diallo, présentatrice à BET, Black Entertainment Television, Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, Zoé Sfez, vous restez avec nous jusqu'à 20h30 pour aller plus loin sur les nouveaux critiques culturels de la prescription à l'influence. C'est ce qu'on a dit aussi sur le Black Panther. Vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power sur notre page sur le site de France Culture. On va vous poster d'ailleurs tous de nombreux articles et textes pour compléter et de référence de ce qu'on a dit ce soir. À 20h10, le débat politique, le numérique et politique. On parle de crypto-monnaie et dans un instant, Zoé Sfez, votre invitée innovation.
Constanza Cipula, elle dirige Audible en France qui fait du livre audio et du podcast et ça marche très bien.
Tout cela à suivre après John Baez sur France Culture.
Tree. The autumn took the rest, but it won't take me. I'm the last leaf on the tree. When the autumn wind blows, they've already gone. They flutter to the ground, 'cause they can't hang on. And there's nothing in the world that I ain't seen. I greet all of the new ones that are coming in green. And I'm the last leaf on the tree. The autumn took the rest, but it won't take me. I'm the last leaf on the tree.
À l'instant, Last Leaf, la dernière feuille extraite du dernier album de John Baez. Ça faisait dix ans que l'artiste n'avait pas sorti d'album. Je ne fais pas l'histoire, je suis l'histoire, dit John Baez dans un article du New York Times ce week-end. Et c'est un peu vrai, à 77 ans et 60 ans de carrière, John Baez a atteint le statut d'icône, intouchable, un peu comme Bob Dylan, même si elle est peut-être restée plus conforme à son ADN, sa guitare, et c'est ainsi qu'on l'aime et qu'on l'enverra à l'Olympia où elle se produira 15 fois prochainement. 10 dates sont programmées au mois de juin cette année et 5 autres en février 2019. John Baez.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Constanza Cipula.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir, vous êtes directrice pour la France d'Audible. On vous invite en cette semaine en fait, en cette fin, pas tout à fait fin, en ce cœur du salon du livre Paris qui a lieu en ce moment et vous y êtes. Je vous y ai même rencontré sur le stand d'Audible que vous partagez avec Kindle et Amazon. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas Audible, bien qu'avec les campagnes de pub que vous faites en ce moment et sur le web et même dans le métro d'ailleurs je crois,
oui.
Ça me paraît difficile de ne pas savoir qui vous êtes, mais Audible, c'est une société qui produit, qui fabrique, qui distribue des livres audio et du podcast, mais le cœur de votre travail, c'est le livre audio. Alors le livre audio, nos auditeurs le connaissent sûrement parce qu'on en a tous écouté parfois sur des cassettes, si on n'est pas si jeune, quand on était petit. Il y a une certaine image du livre audio que vous êtes clairement en train de bouleverser, mais pour revenir un tout petit peu aux origines, Audible est né en 97 et c'est un groupe américain, c'est ça?
Voilà, donc en 95 même, okay. Et ça a été fondé par un écrivain et journaliste aux États-Unis qui s'appelle Don Katz et qui est toujours notre PDG aujourd'hui. Et son vœu, en fait, c'était de rendre ces textes disponibles autrement. Donc, pas seulement à travers une lecture, mais aussi à travers une écoute. Et du coup, il a innové un format digital, purement digital. En 1997, il a même innové le premier lecteur MP3. C'était un appareil assez costaud, pas pratique du tout à l'époque. mais du coup, voilà, c'était son innovation. Et on a eu la chance qu'en 2000, 1981, on était déjà compatible avec le premier iPod lancé par Apple. Mmh. Et du coup, de là, une histoire de succès, oui.
C'est ça, parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est ce concept de la lecture audio. Alors, je veux dire, on est sur France Culture et probablement nos auditeurs connaissent, ont déjà entendu des livres d'Annie Podalydès, L'idée fut un temps, Jacques Bonafé, Nous avons des pièces radiophoniques. Il y avait ce livre audio et en fait, l'innovation d'Audible, c'était une innovation technologique, ce qui fait que je crois que le premier public, c'était d'abord un public qui s'intéressait au digital, pas nécessairement un public de grands littérateurs.
C'est exactement ça, c'était un public assez geek. Je dirais, c'est-à-dire avec une grande affinité pour cette solution technologique, fasciné par cette solution. Et du coup, les genres préférés à l'époque, c'était justement ça, la science et la science-fiction.
Et alors justement, on passe le temps, vous avez été compatible avec le premier iPod, donc du coup vous avez eu, ça a été un vrai tournant. Et là aujourd'hui vous êtes lancé après les États-Unis en Europe, vous avez commencé par l'Allemagne, et d'ailleurs vous êtes allemande, ensuite par la Grande-Bretagne, et maintenant vous êtes en France. Alors concrètement, il y a combien de titres sur le catalogue global d'Audible, c'est-à-dire combien de livres audio vous avez fabriqués, et il y en a combien qui sont disponibles en français?
Voilà, donc, le catalogue global disponible en France, bien entendu, compte 250 000 références. Mmh. La grande majorité est en langue anglaise. On a 8 000 références en langue française. C'est un choix assez qualitatif, c'est-à-dire on se concentre beaucoup sur les auteurs les plus connus, sur les séries de divertissement haut de gamme. Voilà, mais quand même, le catalogue, bien sûr, reste à étoffer.
Alors justement, vous dites qualitatif, ça peut être quoi? Qu'est-ce que, par exemple, là, qu'est-ce que cette année vous avez sorti? Est-ce qu'il y a des classiques, par exemple, sur Audible?
Des classiques, il y en a plein. Dans les meilleures écoutes, ce qu'on trouve, c'est une grande partie des catégories non fictionnelles. Donc, mm-hmm. par exemple, en ce moment sur la une, il y a Sapiens de Harari, donc des titres d'histoire, voilà. Ensuite, il y a La vie secrète des arbres, donc un titre bien-être à la fin. Et méditer jour après jour. Ça, c'est la non-fiction. Pour la fiction, on trouve les dernières nouveautés littéraires, bien sûr. Donc, par exemple, Trois baisers de Catherine Pancol en ce moment, ou bien Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre.
Ah, c'est ça. Alors, du coup, il y a la fiction. Et pour, justement, ces catalogues français et ces ventes françaises, elles sont comment par rapport aux ventes qu'il y a aux États-Unis? C'est-à-dire, qui sont les gens qui écoutent, qui consomment du Audible? Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils sont différents en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne?
On a une certaine prédominance de titres non fictionnels dans les écoutes.
En France.
En France, voilà. Donc, on compte 30 à 40% des écoutes qui reviennent à ces genres-là, les genres d'inspiration, d'apprentissage, etc. Sinon, en France, on a tout type d'auditeurs, c'est-à-dire nos clients reportent qu'il y a en fait deux grandes pistes de motivation afin de se mettre au livre audio et à utiliser le service. Ce soit la multitâche, donc vous écoutez un contenu en faisant autre chose, le ménage, la course, dans les transports. Et deuxièmement, c'est la déconnexion. Donc vous écoutez vraiment pour le plaisir esthétique d'écouter un récit narré. Et donc, par exemple, sur le canapé le dimanche ou bien avant de s'endormir.
Avant de s'endormir, d'ailleurs, vos publicités mettent en scène des jeunes gens, un jeune couple, 25 ans, et elle dit « Oh, qu'est-ce que je vais me faire ce soir ?» C'est un petit peu ça l'idée, parce qu'il y a quand même une culture à dépoussiérer sur ce livre audio, soyons clairs, et j'ai l'impression que, je l'ai découvert en préparant cette interview avec vous, qu'on a une culture particulièrement passéiste du livre audio en France par rapport, par exemple, à des pays comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne.
Oui, en France, il n'y a pas une telle tradition de livres audio sur cassette et CD. Il y en a pour les enfants, c'est-à-dire vous connaissez tous la petite clochette qui va vous indiquer tourner la page. Mmh. Donc en combinaison avec l'image, par contre les livres audio pour les adultes et pour le grand public, ça reste à découvrir. Mmh. Et ouais, c'est notre ça. Mission de découvrir ça.
Alors justement, un livre audio, ça coûte quand même très cher à faire, c'est ça la question. Alors combien ça coûte de faire un livre audio? J'imagine que ça varie selon la longueur du livre. Et surtout, qu'est-ce que vous proposez comme formule? Parce que ça reste évidemment le nerf de la guerre pour que les gens s'y mettent vraiment.
Voilà, donc un enregistrement, ça commence à 500 € par heure, coût de production. Et vous pouvez compter que 30 pages, ça fait une heure. Et du coup, un livre audio... entre 10 heures, si une œuvre de 300 pages. Donc, ça donne à la fin un prix à l'unité qui est assez cher, 20 € environ sur le marché. Et donc, nous, on offre une formule d'abonnement qui vous donne un livre audio par mois avec une réduction de prix. Donc, vous payez 9,95 € au lieu de 20 euros.
C'est ça, donc 9,95€, c'est un peu l'équivalent des abonnements, par exemple, pour un Netflix.
Oui, bien entendu, on offre un livre audio, donc ce n'est pas un choix illimité, et c'est justement par rapport à la nature du contenu, les droits d'auteur, les droits des narrateurs, des comédiens qui sont à rémunérer.
Et alors justement, vous le disiez, vous avez deux types de publics que vous visez, ceux qui sont évidemment, ceux qui sont en train de vivre la révolution du multitâche et du transport, c'est ce qu'on vit nous aussi à la radio avec le podcast. Mais globalement, vous avez l'impression que c'est des gens qui sont des lecteurs ou c'est des gens qui ne sont pas des lecteurs,
les
gens
deux.
Qui vous lisent.
Il y a les deux. Il y a des gens qui réconcilient, par exemple, les gens qui font le tricot. Ils nous disent sur Instagram, voilà, ils nous disent sur Instagram, mais c'est trop bien parce que ça réconcilie du coup la lecture avec les tricots. Donc il y a cette motivation là. Je suis grande lectrice, je suis grand lecteur et je veux écouter au lieu de lire parce que ça, il y a d'autres occasions où faire ça. Eh bien, il y a l'autre cible qui va pas trop lire, mais qui découvre du coup un autre accès à des contenus pertinents et qui se mettent au livre audio instantanément sans passer par la lecture.
Vous me disiez qu'en France, parce que du coup c'est la question que vous avez adaptée, vous, à la fois vous produisez et vous distribuez des livres audio,
oui.
Si je comprends bien. Donc en termes de production, par exemple, depuis que vous êtes présent en France, vous en produisez combien?
Mais à peu près 500 titres par an. C'est un grand volume par rapport à l'édition et c'est dû au fait qu'il faut étoffer le catalogue. Donc on veut vraiment répondre à un maximum de demandes auprès de nos clients. Et voilà, c'est ça la motivation.
Et vous me disiez que vous aviez peut-être aussi plus de difficultés à trouver des grandes voix, parce que c'est aussi peut-être un des leviers qui pourrait permettre parfois à des grands lecteurs, qui en fait ont souvent lu déjà les livres, de se dire peut-être un Proust par un grand acteur, ce qui se fait parfois d'ailleurs à la radio, ça peut être un élément déclencheur. Je crois que vous avez eu Kate Winslet comme lectrice,
oui.
Vous avez Anne Hathaway, donc des actrices oscarisées. En France, visiblement, c'est pas encore tout à fait dans la culture, c'est pas envisageable.
Malheureusement, oui, on fait vraiment appel aussi aux comédiens de s'y mettre, parce que c'est vraiment un exercice artistique, donc de faire vivre, de faire incarner un texte. Donc figurez-vous qu'une bonne comédienne va du coup incarner plusieurs personnages dans sa lecture. C'est un enjeu très riche et passionnant. Et donc, on fait vraiment appel
à tout le monde. À
voilà.
Toutes les bonnes... Dernière question, c'est quoi le but à terme? Parce que vous l'avez dit, là on parle des livres qui sortent. Vous allez faire de plus en plus de productions exclusives. Est-ce que vous allez à terme produire d'autres choses que des livres? C'est-à-dire, parce qu'on peut tout faire avec la voix. Nous le savons nous-mêmes à la radio, où le podcast fonctionne très bien. Vous ne voulez pas nous donner vos chiffres, mais visiblement, ça marche bien. À terme, c'est quoi peut-être les enjeux stratégiques pour vous, Audible?
C'est l'innovation pure, c'est-à-dire on se remet à un format très bien connu, la pièce radiophonique, qu'on va moderniser du coup. Donc on fait ce qu'on nous appelons une série omnisonore. Ça va être un habillage sonore avec une multicast, avec plusieurs personnages intervenants. Ou bien on pense par exemple à faire une BD audio. Donc
c'est des contenus exclusifs avec peut-être des gens qui écriraient directement pour vous.
Voilà, soit ça, soit on soutient quelqu'un qui s'y met. Donc il y a les deux possibilités.
Merci beaucoup Constance Tipula, Audible qui est donc présent encore au Salon Livre Paris, c'est jusqu'à demain.
Merci beaucoup à vous.
Le temps de vous dire que demain matin sur France Culture, dans les matins, Guillaume Herner recevra Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
20h12 en direct sur France Culture, en direct d'ailleurs des studios et de la maison de la radio. Nous sommes revenus après le Salon du Livre. Salon du Livre, Livre Paris. Le numérique et politique, le débat de ce soir est consacré aux crypto-monnaies et à leur régulation. Et nous sommes pour en débattre avec Romain Pigenel, ancien conseiller à l'Elysée et consultant chez Futur.io. Eliott Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Faut-il réguler les crypto-monnaies? Ce soir, on s'intéresse aux crypto-monnaies, d'autant plus que demain, le G20 à Buenos Aires qui commence s'intéressera à ces questions et le sujet sera au menu du G20 à Buenos Aires. Ces monnaies, ces crypto-monnaies sont nombreuses. On cite souvent le Bitcoin, mais on peut également citer d'autres monnaies comme l'Ethereum par exemple. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut 6 000 euros contre 16 000 il y a quelques mois. C'était auparavant l'inverse. Donc il a beaucoup baissé, mais il avait aussi beaucoup augmenté. Les utilisateurs des crypto-monnaies sont croissants. Certains font seulement de la spéculation, d'autres l'utilisent réellement comme monnaie d'échange. Les évangélistes, ceux qui défendent ces crypto-monnaies, mettent en avant l'aspect acéphale du Bitcoin. Contrairement aux monnaies institutionnalisées, il n'y a pas de banque ni d'autorité financière qui régule le cours de ces monnaies. Alors pour commencer avec vous, Romain Pigenel, techniquement, qu'est-ce qui caractérise l'ensemble des crypto-monnaies et quelles sont les méthodes de validation des transactions?
Alors, je crois que pour bien comprendre, il faut un peu remonter dans le temps et regarder leur histoire. En fait, c'est des monnaies qui sont apparues il y a une dizaine d'années, avec la première d'entre elles, le Bitcoin, en 2009, et qui étaient portées par des communautés d'inspiration, on va dire, plutôt libertaire, libérale, et en réaction notamment à la crise financière et ce qui avait été perçu comme étant justement une mainmise des banques, des pouvoirs financiers excessifs sur les monnaies. Et donc, à l'origine de la création des crypto-monnaies, c'est l'idée de se rapproprier le pouvoir financier et de dire on va avoir des monnaies qui ne reposent pas justement sur des banques ni sur des États. Il n'y aura pas de banque centrale, mais elles vont être entièrement portées par des systèmes décentralisés. Et donc, elles utilisent une technologie qui s'appelle la blockchain, qui ne se limite pas aux crypto-monnaies. La crypto-monnaie, il faut faire la différence entre les deux. C'est un usage possible de la blockchain. Et la blockchain, c'est quoi en fait? C'est une forme de registre distribué. Donc, c'est un grand livre de comptes sur lequel on a toutes les transactions qui sont marquées. Et à chaque fois que vous avez une transaction, elle est répliquée sur tout ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire tous les points du réseau. Ça veut dire que tous les gens qui sont membres d'un réseau blockchain, en fait, ils sont tous porteurs de la même information.
À égalité, sans hiérarchie et
absolument,
avec un contrôle par tout le monde.
Voilà. D'où l'idée, effectivement, d'acéphalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe centrale. En théorie, c'est pas falsifiable, alors même s'il y a eu des cas effectivement de fraude dans le cas des blockchains, mais c'est quand même une technologie qui offre une grande sécurité. Et il y a derrière l'idée d'avoir effectivement une démocratie et puis une forme de liberté par rapport aux institutions centrales.
Eliott de Perse.
Oui, mais c'est une technologie à la base qui permet de la sécurité et puis de la transparence. C'est utilisé sur la question des monnaies avec aujourd'hui un écueil majeur qui est que c'est extrêmement volatile. Ça dépend à 100% de l'offre et de la demande. Donc effectivement, c'est très compliqué de l'utiliser en tant que monnaie pour payer quelque chose. Ça reste techniquement possible, mais c'est aujourd'hui l'écueil de ces monnaies-là. Et puis derrière, ça pose la question de la transparence au niveau international, au niveau de la fiscalité, parce qu'on peut échanger des euros ou des dollars en crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, et puis ensuite les récupérer ailleurs. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à taxer cet argent-là? Comment est-ce qu'on lutte contre l'évasion fiscale? Comment est-ce qu'on évite que cet argent soit utilisé pour financer le terrorisme ou des activités illicites? C'est toutes ces questions-là qui sont soulevées.
Globalement, transparence dans un secteur qui est par nature et même par définition l'opacité même.
C'est le grand paradoxe, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire, génial, on apporte comme prérequis la transparence avec l'usage de ces crypto-monnaies et en même temps, aujourd'hui, ça pose un vrai problème aux banques parce que leur modèle économique repose sur l'opacité, sur le secret bancaire et donc il y a une forme d'hypocrisie qui se met en place parce qu'aujourd'hui, les banques essayent justement de recréer de l'opacité dans l'usage de ces blockchains qui constituent de ces crypto-monnaies. Monnaie qui constitue une opportunité économique pour elles, mais avec ce risque. Donc finalement, le plus grand avantage des crypto-monnaies est à la fois leur plus grand inconvénient dans le secteur économique tel qu'il existe aujourd'hui.
Alors, est-ce que l'absence de régulateurs, de régulation est intrinsèque aux crypto-monnaies? Est-ce qu'il est possible de les réguler? Et si oui, comment est-ce que cela pourrait se faire?
D'abord, la question, c'est est-ce qu'il est souhaitable de les réguler? Et là, effectivement, il y a une position qu'il faut arriver à établir. C'est-à-dire que d'un côté, on voit bien, comme je disais, qu'il y avait un projet initial qui était peut-être très sain dans sa façon de faire, si en tout cas on partage la vision libérale. Et puis après, il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation, effectivement. Et puis, il y a des types d'opérations financières qui sont possibles, notamment une opération dont on a beaucoup parlé depuis un an qui s'appelle l'ICO, ça s'appelle Initial Coin Offering. Et en fait, ça consiste à déclarer qu'on crée, alors pour simplifier vraiment, et j'excuse par avance les auditeurs qui sont très spécialistes et qui pourront penser que c'est un peu simplifié, mais donc en fait, on crée une nouvelle crypto-monnaie et on propose, on la met sur le marché et on propose en fait à n'importe qui de venir se porter acquéreur un certain nombre de tokens. Ce qu'on appelle les tokens, c'est donc des jetons, des constituants de cette monnaie-là, qui après va donner droit en fait à droit aux services qui sont portés par la blockchain qu'il y a derrière, Cyan Blockchain, et puis sans avoir de droit sur le capital. Donc c'est une opération financière qui a explosé depuis quelques mois parce qu'en fait, quand vous voulez financer un projet de start-up ou autre sans avoir derrière des gens qui vont devenir propriétaires de votre capital, c'est hyper bien. Parce que vous dites, voilà, je mets en vente tant de tokens de crypto-monnaies, venez les acheter. Derrière, vous n'aurez aucune contrepartie, sinon vous serez propriétaire d'une monnaie qui peut-être plus tard va valoir beaucoup d'argent. Donc on voit que, alors d'abord c'est un moyen intéressant de financer l'innovation, mais derrière on retrouve toutes des techniques habituelles, on va dire, de spéculation, aussi d'arnaque. Il y a eu pas mal d'opérations qui ont défrayé la chronique, j'en parlais juste auparavant, par exemple il y a eu un lancement de crypto-monnaie qui était porté par Steven Seagal aux États-Unis, donc avec derrière des choses un peu floues, on voyait bien qu'il y avait un risque d'avoir des acheteurs qui étaient floués. Et puis plus largement, on voit aujourd'hui, notamment en France, que il y a toute une dérégulation qui est en cours. Il y avait eu une vidéo qui avait défrayé la chronique où on voyait Nabila qui faisait la pub du Bitcoin en disant on pouvait en acheter, c'est vraiment sans risque. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit dans ce type de placement, derrière, s'il y a le moindre problème, on perd tout et il n'y a évidemment aucun filet de sécurité. Et ce que peuvent apporter en bien d'habitude les banques centrales.
Donc réguler, c'est aussi peut-être un moyen d'étendre l'utilisation de ces monnaies au plus grand nombre en les rendant plus secure ou en disant que, enfin, en évitant les craintes qui évidemment existent sur ces secteurs-là, Eliott Lepers.
Mais aujourd'hui, il faut bien savoir que c'est des monnaies qui n'ont pas cours légal. C'est-à-dire que vous n'êtes pas protégé par les directives européennes de protection du consommateur si vous achetez avec des crypto-monnaies, quoi. Donc effectivement, c'est très compliqué d'imaginer qu'on puisse les utiliser. Il y a un mouvement qui est intéressant, c'est celui des stable coins, donc les pièces stables, quoi, qui seraient indexées sur des valeurs plus stables, telles que le dollar, par exemple. Et donc ça rendrait possible l'utilisation de ces monnaies dans les transactions avec un cours qui soit cohérent d'une journée à l'autre. Et donc effectivement, à ce moment-là, ça peut être utilisé. Et donc après, il y a une régulation nécessaire à plusieurs niveaux, parce que la régulation, elle est valable en fait quand on rentre dans les crypto-monnaies ou quand on en sort. C'est ce qu'on appelle les bureaux d'échange, en fait. C'est des bureaux de change quand vous achetez du bitcoin ou autre chose avec des euros et quand vous revendez des bitcoins pour des euros. À ce moment-là, on peut réguler. Pour savoir, eh bien, tout simplement, si vous allez placer tout votre patrimoine en bitcoin et que du coup vous ne le possédez plus en euros, est-ce que vous êtes encore imposé sur ce patrimoine ou pas? Donc c'est ces questions-là qu'il faut soulever à la fois sur la fiscalité nationale, sur l'impôt sur le revenu, et puis également sur les fiscalités européennes, et puis après toute la lutte contre la fraude fiscale, contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme. Et là, c'est des registres bancaires internationaux et il faut les appliquer.
Et quel acteur pourrait réguler les crypto-monnaies, sachant que et quelle est la meilleure échelle au fond pour le faire, puisque réguler des monnaies qui sont par nature déterritorialisées, quel est le droit qui peut s'appliquer?
Il faut agir à différents niveaux. Il y a déjà effectivement une problématique d'information. Alors, on a la chance en France d'avoir notamment sur le web beaucoup de sites bien faits par des acteurs associatifs comme le Cercle du Coin, comme la Maison du Bitcoin, qui font de l'information. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle il faut monter en puissance pour éviter les arnaques qu'on voit monter. Moi, ça me fait rire parce qu'avant, quand on voyait les pubs qu'il y avait sur certains sites d'information ou sur Facebook, c'était sur des actifs faciles à acheter. Maintenant, c'est acheter du Bitcoin. Donc là, faut augmenter l'information. Après, il faut, et c'est ce qui a commencé à, il y a commencé à avoir des mouvements, notamment de l'ordre de l'AMF, il faut regarder les sites d'échange sur lesquels on peut faire effectivement de l'achat de crypto-monnaies pour vérifier aussi que ça soit fait dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas justement qui n'échappe pas aux réglementations qu'on a d'habitude sur les achats d'actifs. Et d'ailleurs, il faut peut-être oublier ce terme de crypto-monnaie et plutôt parler de crypto-actifs parce qu'on est plus proche finalement d'une forme de placement financier que vraiment de monnaie.
Des sites comme Kraken, etc., dont on peut après, on a du mal souvent à voir quel est le pourcentage qu'ils prennent, comment est-ce qu'on peut revendre, etc.
Voilà, absolument. Et puis sur les phénomènes dont on parlait d'ICO, donc qui prennent une grande importance, il faut aussi veiller à ce que quand ils ressemblent justement à des opérations boursières, ben ils soient soumis au même type de contrôle pour éviter des fraudes comme il y a pu avoir. Il y a eu par exemple une énorme fraude, pas en France, aux États-Unis, il y a quelques semaines, avec une initiative qui s'appelait le BitToken, qui était en fait une entreprise qui se lançait et qui essayait d'uberiser Airbnb en ayant une forme de partage de maisons portées par
Uberiser la blockchain. Airbnb avec des crypto-monnaies.
C'est la méta-uberisation. Et il y a eu un scam très classique qui a été lancé, c'est-à-dire qu'il y a des petits
scam,
malins qui ont créé une adresse mail qui ressemblait étonnamment à celle des comment ça s'appelle, des personnes qui étaient derrière l'opération et qui ont comme ça avalé des millions de dollars. Donc on voit des méthodes de fraude financière classiques qui pourraient être évitées ou en tout cas régulées si ce genre d'opérations qui sont en fait des opérations de financement boursier assez classiques dans la forme étaient un peu plus contrôlées par les acteurs qui le font d'habitude.
Et Eliott Lepers,
oui, on est dans un moment un peu fou où effectivement n'importe quel acteur privé, public, individuel, peut créer ce genre de monnaie, peut appeler n'importe qui à venir acheter des bitcoins ou autres. Et donc effectivement, c'est un moment où il y a beaucoup de dérives. La question, c'est comment est-ce qu'on utilise cette dynamique nouvelle, effectivement, dans un secteur
qui est en crise, positif,
pour que ce soit positif, parce que ça apporte plein d'aspects. La question de l'anonymat, pourquoi pas, notamment sur une dimension dimension politique ou pour échapper à une certaine forme de surveillance, elle est intéressante, mais il faut la limiter avec des plafonds de dépenses. Voilà, il faut voir ce que ça va donner, et puis derrière, il faut surtout éviter que ce soit au service de la criminalité financière. C'est la principale question pour moi.
Et je crois que ce qui est important aussi, c'est voilà, de ne pas faire la légende noire des crypto-monnaies, c'est-à-dire que, comme on disait, il y a des risques, mais qui sont en fait des risques spéculatifs, je dirais, qui apparaissent de manière classique à chaque fois qu'il y a des nouvelles formes d'actifs financiers qui apparaissent. Après, il y a aussi des avantages. Ça peut être des technologies qui peuvent permettre de donner l'accès, justement, à l'achat en ligne, à des populations, notamment dans les pays en voie de développement où le système bancaire n'est pas assez développé. Ça permet aussi, comme le disait Elliot, puisque ce sont des monnaies alors, qui ne sont pas vraiment anonymes, mais des monnaies pseudonymes, puisqu'en fait, sur la blockchain, tout est tracé par des adresses. Par contre, l'adresse n'est pas forcément connectée à une entité. C'est pour ça qu'on parle de monnaie pseudonyme plutôt qu'anonyme, mais ça peut aussi être un gage, justement, de protection dans des pays pour faire circuler de l'information, faire remonter de l'information à des journalistes, etc. Donc, c'est important de ne pas confondre, je crois, le côté spéculatif qui concerne une partie des crypto-monnaies, et puis la technologie derrière la blockchain qui a des propensions, un potentiel merveilleux pour, justement, remplacer ce qu'on appelle les tiers de confiance, soit des banques, des institutions notariales, etc., simplifier des industries entières, et puis donner l'accès, comme on le disait, à des services, à des populations qui n'en ont pas. Il y a un exemple classique d'utilisation de la blockchain, pour terminer, qui est de mettre en place des cadastres dans les pays qui n'ont pas de cadastre ou pas d'administration assez forte pour le faire. Donc voilà, ça c'est la partie, je dirais, submergée de l'iceberg, qui est très importante, qui ne doit pas être noyée avec l'eau du bain quand on critique les dérives spéculatives liées uniquement aux crypto-monnaies.
Elliot de Perse. Non, mais c'est ça, c'est la capacité à recréer de la confiance à la base qui est permise avec cette technologie, à recréer une possibilité d'échange qui soit réglementée entre des individus. Et effectivement, c'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qui est une évolution dans l'échange d'informations sur Internet et qui est rendu possible avec cette blockchain. Ça est appliqué actuellement principalement sur la question monétaire, mais il y a plein d'applications dont il faudrait qu'on consacre plusieurs émissions à venir.
Est-ce que l'un de vous deux a des crypto-monnaies?
Moi, pas du tout.
Non plus. On est de l'ancien monde.
Moi, j'ai un Dash. C'est une crypto-monnaie parmi d'autres. Elle varie aussi beaucoup, hein, d'un jour à l'autre. Ouais. Les sommes varient. Donc, c'est intéressant de voir comment c'est très compliqué pour les acheter, c'est très compliqué pour les revendre. C'est en même temps assez compliqué de suivre un marché qui évolue chaque jour. Donc,
il y a une énorme industrie sur la conservation, tout simplement, aussi de ces monnaies. Il y a des histoires de personnes qui avaient acheté il y a plusieurs années des bitcoins et qui aujourd'hui ne les retrouvent pas. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on les sécurise? Parce qu'il faut garder
cette clé. C'est souvent sur une application avec des codes, tout simplement.
Exactement. Enfin, il y a une société française qui s'appelle Ledger qui vient de lever 75 millions d'euros pour justement développer un porte-monnaie physique. C'est une forme de clé USB protégée sur laquelle vous pouvez stocker vos crypto-monnaies. Donc, effectivement, c'est une nouvelle manière de consommer l'argent, de stocker l'argent, qui est aujourd'hui principalement spéculative. Et moi, c'est ça la limite que je vois. En revanche, ça ouvre un potentiel de confiance. Et c'est ça qui est vertueux.
Alors, il y a aussi beaucoup de difficultés pour se les procurer parce que, par exemple, les banques refusent très souvent aujourd'hui, selon les banques, elles ne vous autorisent pas à pouvoir avoir des virements vers ces sites qui vendent ces crypto-monnaies. Donc, il y a tout un contrôle et tout ça est évidemment très opaque.
Et en fait, c'est pour ça aussi, je dirais à rebours, que c'est important qu'il y ait une régulation. C'est pour permettre justement de calmer le jeu et de faire en sorte qu'il puisse y avoir une normalisation de l'usage des crypto-monnaies. Alors, dans la communauté crypto, c'est vrai que c'est ce qui est ressenti un peu comme étant une intrusion de l'État extrêmement critiqué, parce que c'est vrai, comme on le disait au début, que c'est une communauté qui est portée par une idéologie très libérale, libertaire, mais il y a aussi un point positif à cette régulation qui se met en place, si elle n'est pas excessive et si elle est faite, et je crois qu'en France, ce sera plutôt le cas dans une forme d'intelligence et de compréhension de ce qui est en jeu, ce qu'elle permettra de rassurer beaucoup de monde et d'avoir derrière, probablement, une adjonction de ces monnaies-là au système de monnaie classique. Moi, je ne pense pas qu'on aille vers un remplacement d'une à l'autre, on va plutôt avoir, pour des usages différents, la survivance et le développement de ce genre de monnaie à côté des monnaies classiques, parce qu'elles n'ont pas, à mon avis, vocation à les remplacer.
Pour conclure, un mot, Elliot Le Perse.
Moi, je suis très très sceptique aujourd'hui parce qu'effectivement, on est vraiment dans une forme d'aveuglement, quoi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est le paradigme qui évolue. C'est le paradigme sur ce sujet qui paraît très obscur, de voir cette appropriation populaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des millions d'euros qui sont investis par des particuliers français. Et donc, c'est une découverte d'une nouvelle norme d'échange, quoi. Et ça, je trouve que c'est intéressant sur une forme de littératie numérique, quoi, de compréhension d'une nouvelle forme d'Internet, d'une certaine manière. Et justement, justement, dans un Internet qui est de plus en plus préempté par des plateformes privées, par des acteurs qui centralisent, de voir ces nouvelles technologies qui vont à contre-courant de cette dérive-là et donc de cette mort, d'une certaine manière, de l'idée initiale d'Internet, je trouve que ça, c'est très positif. Et donc, c'est plutôt comment est-ce qu'on construit politiquement autour de cette technologie des projets qui permettent peut-être de retrouver, de revenir à certaines sources originelles de ce qu'a été Internet.
Et puis ça répond aussi probablement, on parlait de l'emballement sur les ICO, il y a un côté négatif, mais ça répond aussi probablement à une volonté d'investir plus facilement pour des personnes qui ont envie de participer au financement de start-up, financement de la nouvelle économie. Et peut-être finalement que si ça marche tellement et tellement fort, c'est parce que les moyens de financement habituels ne sont pas forcément adaptés à la modernité, à comment les gens aujourd'hui veulent utiliser leur argent, veulent investir, y compris dans les start-up. Donc je pense que ça doit aussi être un motif de réflexion pour les acteurs financiers classiques.
Merci à tous les deux, on en reste là pour ce soir. Merci à vous Romain Pigenel, ancien conseiller de François Hollande et consultant chez Futur.io. Merci Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Pour aller plus loin sur les crypto-monnaies ou sur le futur de la critique et les nouveaux critiques culturels de la prescription à l'influence, vous pouvez consulter les articles, les ouvrages, les références sur Twitter au mot-clé Soft Power et vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power, on postera aussi toute une série de références sur la page de l'émission sur le site de France Culture et sur sa page Facebook Soft Power. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.